Bonjour chers amis auditeurs. Alors aujourd'hui, notre balade des églises et chapelles du Lot nous amène à Constant et nous sommes devant l'église Saint-Étienne de Constant en compagnie de Madame Jacqueline Alix. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine. Bonjour Jacqueline. Et bonjour à tous.
Voilà. Donc nous sommes devant cette jolie église.
Et il y a deux ouvertures avec des abat-sons pour la cloche. Donc la cloche qui a été aussi dédiée à Saint-Étienne.
Mmh. Tout à fait, tout à fait. Puisque c'est l'église Saint-Étienne de voilà. Constant, donc la cloche est dédiée à Saint-Étienne avec l'inscription Saint-Étienne, priez pour nous. Et quand nous entrerons dans l'église, nous apercevrons un autre élément de Saint-Étienne. Donc là, nous sommes dehors, il fait bon, il fait beau, et nous allons rentrer à l'intérieur.
Alors on pourrait peut-être donner la date de la cloche, 1863. Donc cette église est 19e, elle a dû être construite dans les années 1850 environ. Voilà, c'est sur les dépendances du diocèse de Cahors et de la ville de Cahors qu'est construite cette église de Constant.
Voilà, et donc cette église de Constant a été érigée après celle de Valroufier, n'est-ce pas Jacqueline?
Oui, effectivement, après celle de Valroufier.
Alors Valroufier, parce que tout le monde allait à Valroufier en fait.
C'est ça, tout le monde, tous les habitants de Constant et des environs sur le plateau allaient à la messe à Valroufier. Et lorsqu'ils ont été peut-être un peu fatigués d'aller à Valroufier, ils ont décidé de construire eux-mêmes une église.
Parce qu'effectivement, la route de Valroufier à Constant est quelque peu, difficile.
Ils prenaient les chemins de traverse, mais voilà. Il y avait quand même 2 kilomètres.
Ah oui, effectivement. Effectivement, alors nous allons rentrer dans cette belle église de Constant, où nous allons découvrir un certain nombre d'éléments fort intéressants. Alors lorsque nous entrons par la porte d'entrée, nous passons, et nous sommes là maintenant, sous le clocher, bien sûr, de cette entrée particulière, donc avec ce clocher où il devait y avoir, il y a quelques années, quelques décennies, une corde pour pouvoir sonner la cloche.
Et probablement, oui. Pour l'instant, nous sommes sous un plancher de bois.
Oui, voilà. Parce que le clocher a été refait.
Voilà, tout à fait, le plancher a été refait. Et donc là, nous entrons et, oh là là, c'est absolument superbe. C'est une église très éclairée, très agréable, spacieuse, où nous apercevons beaucoup de statues. Il y a un certain nombre d'éléments que nous allons approcher, bien sûr, mais nous allons commencer par le cœur. Comme d'habitude, la première chose que nous voyons et le premier élément que nous voyons, c'est bien sûr le cœur de l'église.
Voilà. Alors, en circulant dans la nef, on peut voir les belles dalles qui sont très grandes, qui jonchent le sol, enfin qui font le sol. Hein. Elles sont très belles, ces dalles en pierre calcaire.
Voilà, et vous entendez, ce n'est pas feutré, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, dans la nef, il y a un grand tapis.
Voilà. Oui, c'est l'abbé Lafont qui voulait prendre soin de ses fidèles et qui a décidé de mettre un tapis en raffia.
Voilà. Pour protéger du froid, probablement.
Pour qu'on ne se gèle pas les pieds.
Ah, voilà, c'était tout à fait bien vu.
Oui, oui, oui.
Donc, nous approchons du cœur, nous y sommes devant, il y a une marche. Alors, tout de suite, Marie-Madeleine, juste en face, nous voyons totalement au-dessus, au milieu,
un oculus avec un vitrail en trèfle à quatre feuilles. Et au centre, la colombe du Saint-Esprit. Et les quatre pétales, disons, du trèfle, c'est un décor décoratif de jaune et de bleu qui rappelle un petit peu le retable qui est dessous, sur l'autel, avec des sortes de coquilles éclatées. On va en reparler avec le tabernacle qui est dessous, et des fleurs jaunes, voilà. C'est un très joli petit vitrail. Il a quelques manques, il a deux manques sur la partie gauche. Mais bon, on ne va rien dire. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que pour entrer dans le cœur, nous passons la Sainte Table. Et c'est suffisamment rare maintenant d'en trouver pour le signaler, car elle est en fer forgé. Elle est peinte en gris et or, mais elle est en place. Elle est en place, elle n'a pas été enlevée comme on en a enlevé beaucoup dans toutes les églises. Voilà. Et alors les portes, il y a deux portes qui la ferment.
Voilà, que Marie-Madeleine ferme à l'instant.
Voilà, et il y a l'agneau au milieu de rayons, l'agneau sacrifié, hein, symbole du Christ. Et de l'autre côté,
ça me paraît être à peu près la même chose.
La même chose. Voilà. Voilà. Hein. Ça prouve bien que c'est la Sainte Table, là où les gens venaient s'agenouiller pour communier, hein, avant Vatican II. Voilà.
D'accord. Et donc, nous revenons en dessous de cet oculus, ou plutôt, nous allons voir les côtés de cet oculus. Il y a une particularité dans cette église. Ce sont ce que vous appelez, Marie-Madeleine,
des culs de lampe,
voilà.
C'est-à-dire des terminaisons de nervures, les nervures formant les ogives, hein, du cœur en particulier. Donc ces nervures retombent, et pour bien les terminer, eh bien, on met un motif décoratif. Voilà, ceux-là sont très sculptés de feuilles d'acanthe ou avec des lettres, avec des têtes. Voilà, c'est assez bien fini, hein, pour une église du 19e siècle, c'est très bien fini. Ça rappelle un petit peu les églises romanes.
Hein. D'autant que nous verrons dans les deux autres chapelles également.
Oui, le même principe, mais avec des têtes. Et avec des têtes, mais on peut en parler tout de suite, mais avec des têtes qui rappellent les villages alentours.
D'accord. Voilà. Donc on en parlera.
Alors on reste dans ce cœur. À droite, nous avons une belle cathèdre en noyer, hein, avec deux marches. Quand le prêtre célèbre, il doit se mettre là. Hein, et puis l'évêque peut être accueilli aussi, puisque ça ressemble à une cathèdre d'évêque.
Oui, il y a longtemps, mais oui. Oui.
Voilà. Et ensuite, donc, on peut remarquer la chaire à gauche, en face de la cathèdre. La chaire qui est typée milieu 19e, hein, c'est tout à fait le mobilier de Monseigneur Grimardias à Cahors, et c'est tout à fait typé 19e siècle, milieu 19e.
D'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons été dans sa petite salle qui se trouve sur le côté de cette chaire, et nous avons aperçu la porte d'entrée.
Oui, par derrière la chaire.
Derrière la chaire que nous voyons là devant, mais que nous avons vue derrière.
Voilà.
Et dans laquelle, je pense, les prêtres montaient par un escalier ou une échelle.
Un petit escabeau ou une échelle, parce que là, c'est quand même un peu haut pour y monter directement.
Oui, je pense que c'était un escalier.
D'accord, oui, très bien.
Alors ensuite, comme élément marquant, on peut voir deux statues qui sont tout à fait, là aussi, 19e, hein, Saint-Sulpicienne, hein, disons. À droite, nous avons le Sacré-Cœur, le Christ qui montre sa poitrine avec le cœur ouvert. Donc, la statue repose sur un support en bois peint, avec la croix, et puis au-dessus, il est coiffé d'un dais, hein, D-A-I-S, de même facture, un peu architecturale. Hein. Et de l'autre côté, eh bien, nous trouvons Saint-Joseph qui tient l'enfant Jésus sur son bras gauche, et tout à fait dans le même style, avec également un dais au-dessus et un socle assez travaillé en dessous. Mais je pense que le clou de cette église et de ce cœur, c'est le tabernacle.
Effectivement, il est différent de ce que nous avons vu habituellement.
Alors, le tabernacle repose sur un autel ancien en forme de tombeau, qui doit être 18e en gros. Mais au-dessus, il y a également un tabernacle, donc qui est assez imposant, qui est en bois doré.
Nous approchons Marie-Madeleine, donc nous montons la marche, la seule marche qu'il y a dans ce cœur, et nous approchons de ce magnifique tabernacle. tout doré.
Voilà, et, oui, il est en bois doré, il est pansu, hein, sa porte est sculptée du triangle de la Trinité, avec un rayon derrière, des rayons de soleil derrière, au-dessus, deux têtes d'angelots. Et ensuite, alors, ce que l'on appelle en art des gaudrons qui tombent au-dessus des anges. Et ce tabernacle est en parfait état. Il est très beau. Je le date, moi, de la Régence, c'est-à-dire du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1715-1723 exactement. Hein. Après la mort de Louis XIV, il y a eu une Régence parce que Louis XV avait 5 ans. Hein, le futur Louis XV. Donc c'est le cousin du roi Philippe d'Orléans qui a pris la régence et sur 8 ans de temps. Et donc c'est tout à fait typique de la régence parce que sur les côtés, si vous voulez, le tabernacle repose, enfin, est adossé à un dosseret qui est contre le mur et de chaque côté nous voyons une coquille éclatée qui est tout à fait typique de cette époque-là, et le fond est en damier, ponctué, chaque carré est ponctué, hein, avec un petit point au centre, et puis il y a une guirlande de roses qui traverse cet élément décoratif. Et évidemment, des petites têtes d'angelots dessus.
Il est riche, très riche en détails.
Très, très riche. Mmh. Mais alors, c'est vraiment là, typé, vraiment. Mmh. Mais il est parfait, il est en parfait état. Alors après, d'où vient-il? Parce qu'il ne vient pas de cette église, manifestement. Donc je pense qu'on l'a réemployé d'une église de Cahors, peut-être, ou voilà, qui n'était plus en service, disons, et on l'a mis là. Et c'est une très bonne idée parce qu'il va très bien.
Mmh. Et donc il est posé sur un...
Il est posé sur un hôtel en bois peint qui se faisait beaucoup au XVIIIe siècle.
D'accord. Hein,
et voilà, en forme de tombeau.
Nous soulevons le tissu pour apercevoir effectivement.
Alors normalement, oui, il y a la pierre d'autel, de toute façon, elle est là. Et donc sur cet autel de forme tombeau, il y a toujours le même agneau, l'agneau entouré de guirlandes de fleurs.
D'accord. Et un ange de chaque côté, effectivement.
Et aux angles, des têtes d'angelots, mais tout à fait typiques de cette époque. Tout à fait dans le jus, disons.
Alors, nous avons vu ce magnifique autel et ce magnifique élément. Lorsque nous levons la tête de droite et de gauche, nous apercevons deux vitraux.
Oui, des vitraux qui sont 19e, tout à fait 19e, avec des éléments plus ou moins géométriques et ornementales qui sont pas figuratifs, hein, mais il y a de belles couleurs, des bleus, des verts, des dorés, des verts clairs également, et puis un peu de grisaille, c'est-à-dire du beige avec du blanc, voilà. Et ils sont typiques 19e.
Oui, oui. Ils sont à l'identique, je pense, de chaque côté.
Oui, oui.
Alors, nous redescendons cette marche qui se trouve et qui nous amène, cette estrade qui nous amène à l'hôtel. Et nous, en descendant, nous apercevons. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais vu, Marie-Madeleine.
Alors, c'est un objet en cuivre.
C'est
pour les baptêmes.
Oui, voilà. C'est toujours l'abbé Lafont qui avait décidé, qui avait trouvé ça. Et qui aimait, j'ai vu moi-même faire des baptêmes dans ce...
Voilà, je n'avais encore jamais vu cet élément.
C'est un récipient en cuivre, avec un couvercle sur lequel il y a une petite croix. Et le support est en fer forgé. Mm-hmm. Voilà, nous refermons parce qu'il y a de l'eau dedans. Mm-hmm. Et le support est à quatre pieds en fer forgé, voilà.
Alors, nous passons devant une porte, c'était l'ancienne sacristie, ou une des deux anciennes sacristies. Nous allons rentrer dedans parce qu'il y a une histoire particulière, Jacqueline, parce que nous apercevons une cuisinière, nous apercevons un lavabo. Ça servait à quoi et à qui exactement?
Eh bien, cette pièce, après avoir servi de sacristie, a servi de logement à l'abbé Peset, le temps qu'on restaure le presbytère dans lequel il logeait et qui est parti, lorsqu'il a été trop fatigué, qui est parti à maison de retraite.
D'accord. Donc, cette pièce-là, et il y a en face une autre pièce qui servait également, je pense, à cet abbé pour...
Non, la pièce de là a toujours été la sacristie.
Il ne vivait que là.
Voilà. Il ne vivait que là.
Et pendant...
mais ça n'a pas duré longtemps, hein, juste quelques mois, le temps de...
Oui, oui, de refaire le presbytère. Voilà. Et pendant ce temps-là, Jacqueline, figurez-vous que Marie-Madeleine a trouvé un trésor dans le placard qui se trouve dans cette pièce qui a servi de cuisine. Et alors, Marie-Made, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé.
Voilà, moi, je fouille partout, bien sûr. Hein.
C'est ça.
Oui. C'est effrayant. C'est le naturel qui revient au galop. Alors, je découvre dans un tabernacle en bois ancien, qui date aussi du 19e siècle, un étui en bois également, et dedans, un ostensoir en métal doré, qui est très joli parce qu'il est en bon état. Il a un peu souffert de l'humidité, mais c'est très correct. Et donc, comme tous les ostensoirs, il y a le symbole du vin et du pain, le blé et la vigne. Et autour de la cupule, nous avons
Appelez la cupule?
C'est-à-dire, c'est le centre, c'est un élément rond, hein, circulaire, protégé par une petite vitre dans laquelle on présentait l'hostie à la vénération des fidèles. À l'arrière, hein, voilà, mais là il manque le verre, mais ça c'est pas bien grave.
Et donc l'hostie était déposée.
L'hostie était déposée à l'intérieur pour que les fidèles puissent adorer le Saint-Sacrement.
Oui, effectivement, ça existe toujours actuellement dans un certain nombre de paroisses et d'églises.
Voilà, c'est un joli objet, mais qui peut servir encore à la vénération des fidèles. Hein. Voilà,
d'accord.
On le range.
Et donc, Jacqueline, en attendant que Marie-Madeleine puisse replacer ce magnifique objet religieux dans son contenant et ensuite dans l'armoire, enfin dans cet élément. Jacqueline, vous vous occupez de l'église de Constant, c'est cela?
Oui, c'est cela, oui.
Vous avez été déjà préalablement ou ça fait plusieurs années que vous en occupez?
Disons qu'en gros, je m'en occupe depuis une quarantaine d'années, sauf que du temps de l'abbé Pesé, il aimait faire les choses tout seul, donc là, j'avais pris un peu de recul, et puis après, j'ai repris.
D'accord. Voilà. Et alors, au niveau de l'église de Constant, il y a des messes, je suppose,
il n'y a presque plus de messes. La dernière que nous avons eue, officielle, je pourrais dire, c'est l'année dernière pour l'Ascension, le jour de l'Ascension. Et depuis, il n'y a eu que des messes pour les obsèques.
D'accord.
Oui, que pour les obsèques.
Il y a des obsèques, des mariages également, ou non, très peu?
Pour le moment, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a de temps en temps, forcément.
D'accord. Voilà. Donc, nous repassons devant la cathèdre, ou ce qui peut être objet de cathèdre, et nous allons aller, en descendant la marche qui amène dans le chœur, nous allons dans une petite chapelle sur la gauche, où, là aussi, en levant la tête, nous apercevons Marie-Madeleine.
Donc, chapelle du transept. Et il y a un autel sur la gauche, surmonté d'une statue de la Vierge Marie qui accueille les fidèles. Elle est probablement en plâtre doré. Et ensuite, il y a une partie une partie boisée, hein, de lambris, disons, qui sert de support pour des vases ou des statues. Voilà. Et alors, on va revenir sur ces pendentifs, disons, ces culs de lampe qui servent de terminaison aux nervures de la voûte, aux nervures de l'ogive. Et nous voyons qu'il y a des inscriptions. Alors, il y a des têtes, d'abord, des têtes différentes sur les deux, là.
Alors celle de gauche, par exemple.
Alors, celle de gauche, il y a une inscription, mais alors avec mes petites lunettes.
Je crois qu'on peut lire Constant.
C'est Constant. C'est le village où nous sommes.
Voilà, Constant. Tout à fait.
Et ensuite, ici, nous avons Lagarde. Donc là aussi, c'est un village qui est
juste un petit peu plus haut.
D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs villages autour de Constant. Donc, oui. Et ces villages sont répertoriés, nous allons le voir tout à l'heure, sur ces quatre petites culs de lampe. Et donc vous pouvez nous rappeler les villages justement.
Eh bien, il y avait le village de Constant, de La Garde, de Miralas et de Trigodinat.
Voilà. Alors, alors on les retrouve dans la chapelle.
Dans la chapelle en face.
Mais en face.
Juste avant, je voulais que vous nous parliez de Trigodinat. Je crois que c'est un village qui n'existe plus.
C'est un village qui n'existe plus, peut-être depuis une centaine d'années, je ne sais pas. Moi, il y a longtemps que je suis ici, mais je ne l'ai jamais vu habiter. Il était complètement en ruine. Voilà, c'est tout à peu près tout ce que je peux vous dire. Il était très beau, je pense.
Il y avait des vignes, parce qu'il y a le clos Trigodinat.
Voilà, et oui, c'est ça. Je pense qu'après le phylloxéra, beaucoup de villages se sont éteints, faute de où les gens ne pouvaient plus vivre.
D'accord. D'accord. Alors, nous allons nous diriger vers cette autre petite chapelle. Donc, où nous allons retrouver ces culs de lampe, Marie-Madeleine.
L'autre bras du transept, donc. Et donc, ici, à gauche, nous avons un personnage féminin, où il y a Trigodinat, et à droite, une tête d'homme, avec Miralas. Miralas, exactement.
Voilà. C'est cela. Mais qui est prononcé Miralas, ou qui se prononce différemment?
Oui, maintenant, on prononce Miralas.
Il y a un lieu dit Miralas.
Oui, oui, voilà, qui autrefois était d'ailleurs sur la commune de la Madeleine.
C'est ça.
Seulement, comme il faisait partie de la paroisse de Constant, eh bien, c'est pour ça qu'ils ont participé également.
D'accord. Alors, Marie-Madeleine, nous apercevons en haut à droite, une statue
en plâtre, je pense, plâtre, voilà, blanc. Et finalement, c'est Saint-Étienne, le diacre Saint-Étienne, puisqu'il il porte une dalmatique à bordure dorée. Et de son bras gauche, il soulève le pan avant de cette dalmatique. Et sans doute tient-il dans sa main, sous la dalmatique, la pierre qu'il a tuée, la pierre de sa lapidation. Mm-hmm. Et de son bras droit, il tient la palme du martyr. Donc c'est bien Saint-Étienne, il n'y a pas de doute.
Et alors, qui se trouve dans toute l'église, donc à chaque fois que nous tournons la tête, nous apercevons ces tableaux qui représentent le chemin de croix.
Le chemin de croix.
Est-ce qu'on peut en parler de ces tableaux, Marie-Madeleine?
Ça, c'est tout à fait classique, typique Napoléon III, avec des cadres noirs à bordure dorée et surmontés de croix également noires à bordure dorée. Et ce sont ce que l'on appelle des chromolithographies, c'est-à-dire c'est l'ancêtre de la photographie, je dirais, mais enfin pas tout à fait. C'est une façon de reproduire des images colorées en grande série. Et ça se faisait beaucoup au XIXe siècle, avant l'invention de la photographie.
Est-ce que je vais dire une bêtise, Marie-Madeleine, si je parle d'images d'Épinal?
C'est pas tout à fait le même principe que l'image d'Épinal, mais c'est la même époque.
Ah, enfin, voilà, c'est ça.
La grande époque, c'est le XIXe, mais il y a eu des images d'Épinal au XVIIIe.
D'accord. D'accord. Alors, lorsque nous nous retrouvons maintenant dans la nef, nous apercevons deux statues à droite et à gauche. Donc, l'une représente Jeanne d'Arc,
En armure. Elle devait tenir une épée, elle ne tient plus qu'une poignée, que la poignée de l'épée, il n'y a plus l'épée. Et de l'autre côté, elle tient donc le drapeau de la victoire pour le roi Charles VII. Contre les Anglais.
D'accord, et face, bien sûr.
Et ici, saint Antoine de Padoue, donc, il tient l'enfant Jésus sur son bras gauche. Et il y a un échange de regards entre les deux qui est tout à fait touchant, je trouve. Ce sont des statues 19e, vraiment, là, l'artiste y a mis tout son cœur.
Effectivement. Et il y a un livre, je crois, que tient Saint-Antoine dans sa main gauche.
Je ne sais pas si c'est un livre ou un petit support. Oui, un livre, en effet. C'est un livre sur lequel est assis le petit Jésus.
Voilà, tout à fait. Ça fait un détail qui m'a interpellée, effectivement, voilà. En rentrant tout à l'heure dans la vision que j'ai eue tout de suite de l'église. Voilà. Alors, en face, ou tout au moins à côté de Sainte Jeanne d'Arc, il y a encore une particularité, c'est que nous avons un monument aux morts intitulé « À nos héros morts pour la France, la paroisse de Constant à ses enfants ». Donc, c'est assez rare qu'il y ait des monuments aux morts dans les églises, mais celui-là y était pour la guerre de 14-18. Mais apparemment, il y a un autre monument aux morts dans le village.
Oui, depuis une vingtaine d'années, il a été érigé un autre monument aux morts à côté de la salle des fêtes.
Voilà, donc effectivement, nous avions vu cela à Saint-Cyrus. Ça nous avait interpellé. Il y avait également le petit drapeau français sur le monument aux morts.
Cette plaque est intéressante parce qu'elle date donc après la guerre de 14, bien sûr, 18. Donc c'est les années 20 et c'est l'art nouveau. Hein. L'art nouveau avec cet ange en pied hein, qui offre une couronne, la couronne de laurier. Hein. Voilà, et qui tient une gerbe de fleurs dans les bras. C'est tout à fait typique des années 20. Ouais, tout à fait.
Alors, nous continuons notre petite visite avec des chapiteaux au-dessus de tout cela.
Voilà, alors à l'entrée des chapelles du transept, il y a donc quatre chapiteaux, deux et deux. Mais il y en a un qui est particulier parce qu'il... Alors, ce sont des corbeilles, hein, on appelle ça des corbeilles pour les chapiteaux en forme de corbeille. Mais il y en a un au-dessus de Jeanne d'Arc, là, qui a des inscriptions et des noms de gens du village probablement ou de la région, hein, voilà. Et on suppose, hein, on suppose avec vous, Jacqueline,
je pense.
Voilà, ce sont des donateurs.
C'est ce que je pense. Voilà. Je ne les ai jamais connus, mais je le pense. Mm-hmm.
Parce qu'ils sont, je crois que vous disiez avant de commencer l'émission, quand nous avons levé la tête pour un petit peu lire les différents noms, Jacqueline, qui se trouvaient, je crois, dans le cimetière.
Oui, dans le cimetière, effectivement, il y a des caveaux, des anciens caveaux, où il y a les inscriptions de ces familles.
D'accord, d'accord. Très bien, donc nous allons ressortir de cette belle église. Et avant de vous dire au revoir, chers amis auditeurs, nous passons devant, ou tout au moins nous laissons à gauche, ce bénitier, Marie-Madeleine.
Oui, ce bénitier, donc, qui comportait l'eau bénite, et dans laquelle se signaient les fidèles qui rentraient dans l'église. Voilà. Il n'y a plus d'eau en ce moment, puisque c'est interdit avec le Covid, mais ça, il est très fonctionnel. Et c'est une ancienne pierre, enfin, qui est un ancien récipient qui est inclus dans le mur, mais qui en dépasse largement. Et c'est tout à fait... original et sympathique dans cette église.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Jacqueline de nous avoir accueillis avec toute cette belle gentillesse.
C'était avec plaisir.
Et puis merci Marie-Madeleine.
Oui, avec plaisir vous. Aussi, c'est toujours un plaisir.
Avec vous, c'est une surprise. Une église. C'est une surprise à chaque... À chaque église, nous apprenons toujours grâce à Marie-Madeleine, mais aussi grâce à toutes les personnes qui nous reçoivent. Donc, nous tenons à leur dire un grand merci. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour une autre émission Église du Lot.
Au revoir
à tous.
Au revoir.